France Culture.
Bonsoir cher Arnaud, et maintenant effectivement c'est Mauvais Genre. Et vous écoutez France Culture. Le déchet des uns, c'est le trésor des autres. Rudy, et pas d'erreur, c'est Mauvais Genre. Las Vegas n'est pas Londres, mais le peuple de l'abîme qu'a rencontré et filmé Jean-Baptiste Torré dans Neon People, son quatrième film, a tout à voir avec celui qu'évoquait Jack London dans son reportage londonien de 1903. Leur abîme ne sont pas les asiles de nuit, mais les 800 km de tunnels souterrains d'évacuation qui protègent Las Vegas des crues orageuses. La vive, seule ou en compagnie, plusieurs milliers de déracinés et de dépossédés sociaux, survivants d'entraide, de mendicité et surtout d'espérance. Un jour, le pas des pauvres fera de nouveau trembler la terre, écrivait Bernanos. Pour l'heure, les pauvres tremblent sous la terre, dont acte avec Neon People, à voir en salle depuis le 22 octobre. Chronique en second temps d'émission, signée Philippe Rouillet et Stéphane Duménildo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, bienvenue à Jean-Baptiste Torré. C'est une phrase absurde ça.
Oui absolument, mais bon. Je suis habitué, je vous ai pratiqué pendant 15 ans, donc voilà. Je sais que vous êtes un spécialiste de ça.
De l'absurdité. Vous êtes l'invité ce soir, donc bien sûr, pour Neon People, qui est visible en salle depuis 3 jours maintenant devant vous. Vous connaissez Philippe Rouillet ?
Un tout petit peu.
Depuis combien, 15 ans ?
On a dit le plus grand bien.
On vous a dit, oui.
Et réciproquement.
Philippe Rouillet qui se revient du Festival Lumière de Lyon et qu'est-ce qu'il a à nous en dire ?
Ah bah c'était ce qui
était. Vous voyez que vous sur scène.
C'était formidable parce qu'il y avait, une rétrospective Martine Ritt. Et ça, c'était... Bon, le prix a été donné à Michael Mann, ça, on l'a beaucoup dit. Mais Martine Ritt, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait assez peu de films dispo en France et que là, il y a des tirages de copies neuves. Donc, il faut savoir qu'il y a 14 copies neuves maintenant.
Alors, Martine Ritt, quel film ?
Alors, Martine Ritt, faut rappeler qu'il a été, avant d'être cinéaste, il a travaillé à la télévision, au théâtre, il a été prof à l'Acteur Studio. C'est comme ça qu'il rencontre Paul Newman, qui est son élève. Il fait 6 films avec Paul Newman. Moi, j'ai présenté là-bas Le plus sauvage d'entre tous, Eud, qui est un film vraiment extraordinaire, qui est à la fois un western désenchanté et un mélange de drame naturaliste. C'est vraiment la fin de l'Ouest. Et Paul Newman y incarne un type parfaitement dégueulasse. Et le cinéma de Ritt, c'est à la fois l'engagement personnel et l'intrication dans les liens familiaux. On a vu Norma Rae, on a vu Le Prête-Nom. C'est vraiment un cinéaste qu'il faudra réévaluer dans le cinéma américain des années 60 à 90.
Jean-Baptiste ?
Oui, Martine Ritt, oui, ça fait partie de tous ces cinéastes un peu invisibles, malheureusement, aujourd'hui, par rapport aux têtes de pont qu'on connaît. Et évidemment, Le Prête-Nom. Et moi, je pense surtout à Molly Maguire, qui est
extraordinaire, très sur commande en français.
Ouais, absolument, très sur commande, qu'il faudrait redécouvrir et ressortir. Mais et peut-être que les gens le connaissent surtout, évidemment, à cause de Norma Rae, qui a peut-être été le plus gros succès, c'est-à-dire de syndicaliste, joué par Sally Field.
Prix d'interprétation à Cannes 79.
Voilà, mais oui, Martine Ritt, absolument, cinéaste à redécouvrir.
Martine Ritt. Stéphane Duménildo, vous de votre côté, Martine Ritt
Je ne connais pas très bien, donc je vais être vraiment content de voir ces films. En fait, c'est vrai que c'est un cinéaste dont les films sont difficiles à voir quand même.
Oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'un festival comme Lyon, ordonnant des restaurations, ça permet de remettre en lumière, parce que les copies circulent, elles sont là à Paris, elles passent dans un MK2, et elles vont pouvoir circuler dans toute la France.
Oui, c'est surtout qu'en fait, ce genre de rétrospective, ça a du sens parce que ce sont des rétrospectives, c'est-à-dire que si on ressort ponctuellement ou de façon isolée un Martine Ritt ou comme plein d'autres cinéastes, ça fait pas sens. Le fait de, on pourrait dire ça de Al-Ashby, de plein d'autres cinéastes, en fait aujourd'hui il faut les présenter de façon un peu massive pour qu'on comprenne la trajectoire et l'œuvre. Si on sort que Molly Maguire ou Le Prête-Nom ou Norma Rae, on n'a pas la bonne vision d'ensemble de Martine Ritt. Je pense qu'aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire d'un point de vue patrimonial en fait.
Votre actualité, Stéphane Duménildo ?
Eh bien, il y a le coffret Lady Yakuza qui sort chez Carlotta, dont j'ai fait les bonus, les préfaces. Alors, Lady Yakuza, c'est une magnifique femme Yakuza interprétée par Junko Fuji, voilà, en kimono avec un sabre ou un très long couteau ou un pistolet qui va massacrer les gangs ennemis. Et les films, voilà, c'est 8 films. Et ça se voit un peu comme des westerns japonais, puisqu'elle erre sur les routes du Japon, puis elle s'arrête dans des villages, elle est confrontée à des choses comme, par exemple, la construction d'un chemin de fer. Voilà, avec des bateliers qui vont perdre leur travail, donc elle va se mettre du côté, elle se met toujours du côté du peuple, et toujours du côté des femmes, en fait. C'est une série qui a une vraie idée de la sororité, aussi. Et Junko Fuji est absolument magnifique, c'est l'ancêtre de Meiko Kaji, Lady Snowblood, et de toutes les femmes yakuza ou d'épée, hein, qu'on va voir par la suite dans le cinéma japonais. Donc voilà, c'est recommandé.
C'est très bien, c'est recommandé. Et nous recommandons, comme nous recommandons la réédition poche et augmentée du dictionnaire du cinéma japonais en 113 cinéastes de Pascal Alex Vincent, vous confirmez?
Oh bah oui,
voilà, un classique. Sûr. Et c'est chez Carlotta. Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous non pas avec les Lady Yakuza, mais avec les femmes de l'abîme, selon Jean-Baptiste Torré. Dario Argento et Michael Cimino, Un mirage américain. Vos trois précédents films, alors centrés soit autour d'une génération de créateurs, là, on perd de vue, je dirais, Jean-Baptiste, les têtes de pont, les figures des grands cinéastes, des grands témoins, des grandes époques, pour entrer dans le monde de l'indifférencié, où survivre est déjà l'essentiel, où les gens ont encore un nom, mais est-ce leur vrai nom? Est-ce que c'est un surnom? On ne sait plus. Comment c'est amorcé tout ça? Parce qu'effectivement, après trois films comme ceux que je viens de citer, comment se déclenche une aventure comme celle de Neon People, qu'il faut le dire quand même, pour ceux qui verront le film, et j'espère qu'ils seront très très nombreux, puisque c'est un film universel. Comment se déclenche pareille aventure?
Bah, écoutez, alors d'abord, c'est intéressant que vous mentionniez effectivement, enfin, We Blue It et Michael Cimino, qui étaient des films qui frayaient avec le cinéma, mais en fait, le cinéma n'était pas en réalité l'horizon des films. C'était une façon d'aller tout simplement voir on pourrait dire des certaines Amériques. Évidemment, c'est le cas de We Blue It, c'est où se mêlaient déjà quand même des gens ordinaires, on peut dire des Kidam avec des gens plus connus, ou Michael Cimino, où il s'agissait d'aller voir les vrais gens. On pourrait presque dire qui ont inspiré. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas du tout de rupture, mais c'est stricte continuité. Hein. C'est parce que tous ces gens du Nouvel Hollywood ou de Cimino, ils n'ont cessé de parler de gens comme les Neon People en réalité.
Voilà, c'est-à-dire
quand on regarde l'épouvantail de Schatzberg, il suffit d'aller chercher les deux vagabonds ou hobos pour dans le réel, pour d'un seul coup les retrouver. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment un trajet totalement, je dirais, naturel. Si ce n'est que dans les premiers, on pourrait presque dire que le cinéma était presque la focale centrale pour aller regarder le réel. Moi, je fais pas de différence entre le cinéma américain et l'Amérique tout court. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le film est hanté, à mon avis, par le cinéma. Parce que je suis ce que je suis, puis mon cerveau est tapissé des images qui peut. Mais en fait, il devient plus sujet. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'est que là, le cinéma devient une manière de regarder l'Amérique, ou en tout cas d'aborder une forme de trouver une forme de justesse ou de vérité. Je dirais pas de réel. Je crois pas du tout à l'idée qu'il y ait du réel. On tente d'être vrai ou pas. Et l'origine, elle remonte à l'époque d'ailleurs des repérages de We Blue It. Parce que moi, je me baladais un jour comme ça à Las Vegas, et j'ai tombé sur un ancien vétéran de la guerre du Vietnam qui m'avait avoué, à l'issue de la discussion, dormir non pas dans la rue, mais dans les tunnels. Et j'avais gardé sa réponse qui m'avait semblé complètement énigmatique à l'époque. Ça veut dire quoi? Je dors dans les tunnels. Et c'est comme ça que des années plus tard, je suis reparti en fait de cette phrase et où j'ai commencé par enquêter de façon très empirique depuis Paris d'abord en me disant mais c'est quoi cette histoire de tunnel à Las Vegas. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un essai de réseau effectivement tentaculaire plusieurs centaines de kilomètres qui partent de Vegas sous terre. C'est-à-dire que quand les touristes se baladent sur le strip où ils sont concentrés à 98% 2 mètres sous eux, sous leur pieds, il y a cette espèce de ville souterraine. Il y a le contre-champ, le contre-lieu, le refoulé, enfin tout ce qu'on veut. Et donc voilà, j'ai découvert cette réalité-là. Mais après, la question qu'il a fallu se poser, c'est que théoriquement, c'est formidable. Il y a un sujet incroyable. Il y a quelque chose à... Moi, j'avais envie, une excitation même, d'une certaine manière, à aller voir. Après, il fallait vérifier qu'on pouvait très concrètement et de façon physique, prosaïque, tourner un film dans ces conditions, amener une équipe sous terre, parce que on est dans le noir, c'est humide, souvent on est à quatre pattes, en fauteuil roulant, c'est la loi du vieil ouest, en fait, les policiers n'y mettent pas les pieds, les services sanitaires, les ambulanciers, personne, les téléphones ne captent pas, donc est-ce qu'on peut tout simplement amener une équipe sous terre, est-ce que c'est pas trop dangereux, et est-ce qu'on peut surtout tenir en fait une ambition esthétique dans ces conditions. C'était mon obsession, c'était ça.
Alors, avant de donner la parole à Philippe et à Stéphane, cadrons bien pour l'auditeur les centaines de kilomètres et la population, je veux dire, qui y vit. Quels sont ces tunnels? À quoi ils servent? Ils ont deux mains d'homme, bien évidemment. Quelle est leur fonction précise dans l'architecture urbaine? Et puis, combien de ce peuple de l'abîme?
En fait, Las Vegas, jusque dans les années 70, était régulièrement le théâtre, une fois par an à peu près, d'inondations, qui inondaient les rez-de-chaussée, voire parfois les premiers étages des casinos. Et on sait que Las Vegas est une ville qui s'est construite en grande partie par l'argent de la mafia. Et au bout d'un moment, la mafia se retournait vers l'État du Nevada et la ville en disant c'est pas possible, faut faire quelque chose parce que on perd énormément d'argent une fois par an, etc. Donc a été construit un réseau de collecteurs d'eau en cas d'inondation. Et donc ce réseau, qui sont vraiment des tunnels sous terre de hauteurs différentes, c'est une sorte de labyrinthe, on pourrait presque dire.
Des conduits
qui font 800 km. L'entrée, en fait, dans ces différents tunnels, les entrées ne sont pas apparentes depuis la surface. C'est pour ça que la plupart des gens, et de Las Vegas, et même les Américains, ignorent l'existence même de ces tunnels. Et moi, quand je suis arrivé au moment des repérages, j'ai passé un mois et demi avec mon ingénieur du son, Julien Brossier, pour repérer tout ça. J'étais d'abord allé à la mairie de Las Vegas en leur demandant le cadastre. Quel est le plan? Ils n'ont jamais voulu me le donner. Parce que évidemment, ça renvoie à une réalité qu'il s'agit d'invisibiliser au maximum à Las Vegas. On n'est pas censé savoir quand on boit nos sodas et qu'on dépense nos dollars dans les machines à sous, que dessous il y a les c'est les damnés, la cour, c'est Frix quoi, la cour des miracles. Et donc c'est voilà, ça a été construit ce réseau de tunnels à toute fin des années 70. Et encore une fois, c'est une zone de non-droit. En réalité, tant que les gens des tunnels, qui sont à peu près 2000, c'est à peu près la population, et ils se répartissent par zone. C'est-à-dire que les tunnels, on les appelle, on les nomme en fonction des casinos qui sont situés juste au-dessus. Alors on dit les tunnels du Rio, les tunnels du Bellagio, les tunnels du César Palace, etc. C'est comme ça qu'on identifie. Et chaque communauté a ses codes et son parrain, celui qui est un peu le référent, celui qui règle le problème. Enfin, c'est vraiment, j'utilise à dessein le mot le parrain, ouais. Parce que tant qu'on n'a pas son accord, il ne va rien se passer. Et donc, c'est voilà, il y a des communautés comme ça qui gèrent plus ou moins les tunnels. Et les gens qui vivent là-dedans, en fait, objectivement, ce sont des gens qui ont été ou qui sont comme vous et moi, mais à la faveur d'un accident de la vie, du chômage, d'une rupture amoureuse ou je sais pas d'une banqueroute dans les casinos, etc., se sont retrouvés dans les tunnels parce qu'on est aux États-Unis. Évidemment, on monte très vite et on descend aussi très vite. C'est le cas d'un des personnages, Scott par exemple, qui lui était le chief security, donc responsable de la sécurité au Bellagio, très très grand casino de Las Vegas, somptueux. Donc il vivait comme un prince dans son condo avec ses voitures, sa copine travaillait dans un strip club, il faisait beaucoup beaucoup d'argent. Et puis un jour, il le raconte d'ailleurs dans le film, en sortant d'un restaurant, il se fait renverser par une voiture. Or, ce type-là avait oublié de prendre une assurance santé. Et là, le cauchemar commence. C'est-à-dire que, évidemment, les frais sont absolument gigantesques. Il n'a de moins en moins de moyens pour les payer. Il revend sa voiture, son condo. Il prend des painkillers, qui sont généralement la porte d'entrée vers la drogue. Et en l'espace de quelques semaines, il passe de son condo luxueux de Las Vegas au tunnel. C'est toujours le même trajet. Hein, on commence avant d'aller dans la rue, on va dans des motels, on passe un peu de temps dans les motels. On n'a plus d'argent, on va dans la rue. Puis la rue, c'est compliqué. Las Vegas, l'été, il fait 45 degrés, c'est plus violent, etc. Et petit à petit, on rencontre quelqu'un qui est un habitant des tunnels, avec lequel vous sympathisez et qui vous dit viens avec nous, descends sous terre. Et c'est comme ça que ça se fait. Est-ce que Scott, il y est par exemple depuis des années,
Philippe? Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est cette relation, et le film montre bien cette relation entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire que une fois qu'on plonge dans ces tunnels, l'extérieur devient à la fois un mirage, une aspiration à y retourner, et en même temps une crainte. C'est-à-dire qu'on est très mal dans le tunnel, et Brandy le dit bien à la fin, on est très mal dans le tunnel, mais c'est chez nous. Oui. Et donc, il y a un côté sécurisant, et même, le film montre bien que dès l'instant qu'on sort du tunnel, les bruits, qui sont les bruits de nous, de la ville, enfin bon, même s'il y a plus de bruit à Las Vegas, mais sont hyper agressifs et on comprend comment il y a cette angoisse et c'est la vie de ces gens qui est là. C'est-à-dire que le rêve d'aller dehors et en même temps l'obligation d'aller dedans. C'est pour ça que le temps devient très élastique. Ils viennent là pour se dépanner et puis finalement ils se retrouvent là, ça fait 10 ans qu'ils sont là et ils savent pas. Et de temps en temps il y a des gens qui en sortent.
Très peu.
Hein. Et ça devient, la fille de Brandy, par exemple, elle s'en Absolument. Est sortie, ouais, et ça ouais. devient quelque chose de... c'est presque des héros, quoi, ou des héroïnes.
Oui, parce qu'en fait, en réalité, c'est ce que dit à un moment un des personnages du film, d'ailleurs, qui s'appelle Raven, et qui est morte il y a 3 mois d'une infection fulgurante, en fait, parce que les ambulanciers n'ont pas eu le temps d'arriver aux abords du tunnel, donc 34 ans, et c'est elle qui dit, une drôle d'ironie, mais en fait, on mourra tous dans les tunnels. La vérité, elle est quand même là. C'est que le temps passe, la dégradation physique, le fait qu'on n'ait plus de papier d'identité. Puis on est aux États-Unis, pour avoir un papier d'identité, il faut avoir un logement. Pour un logement, il faut un travail. Et pour un travail, il faut une carte d'identité. Donc on n'en sort jamais. Donc en fait, plus le temps passe, et quand je dis le temps, c'est même quelques mois, moins il y a de chances que ces gens-là s'en sortent, puisque la drogue, évidemment, a fait son apparition. Ils sont tous sous drogue, à des degrés divers, mais pour supporter ce type de vie, c'est évidemment ce qui se passe. Donc voilà, effectivement, la question, le paradoxe permanent, c'est ce sont des gens qui ont une famille quelque part, à laquelle ils ont très souvent menti. Il y en a peu qui disent en réalité à leur famille d'origine, que ce soit au nord de la Géorgie ou en Californie ou dans le Wyoming, ce qu'ils font. Ils leur mentent en leur disant « je suis à Vegas, je travaille dans un motel, un diner ou un strip club », mais en fait, c'est pas vrai. Et en fait, à force de passer son temps dans une communauté, leur famille, on pourrait dire d'origine, peu à peu, elle devient cette nouvelle communauté-là. Et c'est tout ce paradoxe, c'est le désir de... c'est leur nouveau home sweet home, en dépit des conditions catastrophique, il y a une sorte de survie, d'entraide entre eux, et leur famille d'origine peu à peu s'éloigne.
Stéphane.
Et puis parfois ils sortent et puis ils vont jouer au casino, enfin ils vont jouer aux machines à sous avec leurs économies, parce que malgré tout ce sont des habitants de Las Vegas qui font comme les autres habitants de Las Vegas. Ça c'était vraiment très troublant aussi.
Oui, c'est qu'en fait, nous, on a passé, évidemment, un mois et demi avec eux de repérage, un mois et demi de tournage, donc on vivait l'essentiel du temps avec eux, et comme eux, ça c'est important, hein. Donc on s'habitue, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis un phobique des cafards, je pensais pas que j'allais un jour manger des hamburgers au milieu des cafards. Mais on est obligé, parce que il faut faire corps avec ces gens-là, on va s'immerger avec eux, il faut être accepté, ce qui est pas évident, donc à la fin, on doit vraiment s'intégrer à la communauté.
Comment se fait-on accepter, justement, parce que il y a tout un travail sur l'échange social, l'anglais.
On y va avec ce qu'on est, et puis voilà, au début, on a arpenté des kilomètres sous terre à la rencontre de gens, certains refusent,
sans
certains
savoir
sont menaçants.
Où vous alliez.
Oui, bien sûr, mais parce qu'on n'a pas de plan, on sait
c'est
pas,
ça,
donc on est dans le noir intégral.
Pas topographié.
Sur des kilomètres avec nos flashlights.
On a des lampes torches, c'est ça.
En fait, les lampes torches, c'est presque la denrée la plus importante, et des piles. Hein, c'est-à-dire que il faut avoir des piles sur soi, parce que faut bien comprendre, dans les tunnels c'est pitch black, c'est-à-dire que c'est le noir intégral, on sait jamais comment on va en sortir, où on est, le son évidemment est très étrange, on se croirait sur Mars à cause du béton, de la répercussion des ondes sonores ou autres. On est dans un lieu totalement étranger, c'est-à-dire que on ne distingue pas ce qu'on voit, le son est très très bizarre, on l'a jamais entendu ailleurs, donc on a tendance par moment à voir des choses qu'on voit pas. C'est vraiment une comme si on explorait une planète, en fait, une planète étrangère. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Et peu à peu, on rencontre ces gens-là. Et puis, il y en a qui commencent à vous faire confiance, vous retournez les voir, et puis ils vous racontent votre vie, vous racontez la vôtre. Et surtout, je leur ai toujours dit, depuis le début, exactement le projet que j'avais en tête. Le film, l'histoire, le récit, l'immersion, le tournage en cinémascope, etc. Parce que, juste un micro-détail, c'est qu'aujourd'hui, quand vous débarquez dans des... Mais c'est le cas, je pense, de plein d'endroits, vous dites à des gens, je vais faire un film avec vous, sur vous. Le mot film a plus le même sens qu'il avait il y a 10-12 ans. Les gens entendent vidéo YouTube, vidéo TikTok et toutes ces dégueulasseries, etc. Donc, en fait, on est aujourd'hui soumis, quand on veut faire, j'irais, du cinéma, à des images concurrentes, parce qu'ils sont ultra majoritaires. Et ça, il faut quand même 2-3 semaines pour leur faire comprendre que ça sera pas une vidéo YouTube, qui généralement sont des vidéos voyeuristes absolument atroces qu'on peut faire là-dessus. Et ça, je sais que ça fait partie du travail avec eux. Et puis ensuite, voilà, c'est former une équipe la plus réduite possible. On était 4 pour être un peu guérilla, parce que dans les tunnels, on se déplace pas facilement. Et comme on avait du matériel de cinéma, comme des caméras mini Alexa, des optiques anamorphiques ou autres, c'est très lourd, c'est du matériel professionnel. Il fallait qu'on trouve des solutions pour pouvoir se balader rapidement avec 35 ou 40 kilos sur soi à l'intérieur des tunnels.
Donc la solution, c'est quoi? Des fauteuils roulants, des trucs comme ça?
Oui, en fait, on peut pas marcher. Nous, au tout début, on pensait que quand on tombait sur un tunnel d'1m20, qu'on allait marcher courbé. Mais en fait, au bout de 200 mètres, on n'a plus de dos. Donc en fait, eux, ils ont en permanence des déambulateurs, des fauteuils roulants ou des caddies qu'ils ont piqués à la surface. Et on ne peut se déplacer que quand le plafond est trop bas, à l'aide de fauteuils roulants ou de caddies. On ne peut absolument pas marcher courbé sur des centaines de mètres, c'est impossible.
People around here, they really don't like the homeless at all, so I have to get inventive and find these little secret places, you know.
There's a couple other people that they kept telling us, come stay down in the tunnel with us. It's, you know, it's safe. There's no cops.
We've been out here for fuck. This is more of my home out here. My family's out here, my people.
When you're new, you have to kind of learn the rules. Respect everyone's space, respect everyone's stuff.
I actually have nightmares about it. You being found in a trash can months later.
Yeah, we definitely want to move out of here. I gotta pull my head out of my ass.
What are you doing, Bubba? Where'd you folks go?
Oh, these are coming.
Oh, these are coming.
We are invisible, and that's how I like to be. Back to the word adapt. I adapt well.
I've been lost for so long, and I just don't want it anymore.
Et ce sont des conteurs.
Stéphane Duménildo.
Ce sont des conteurs aussi, hein. Ces gens, ils n'arrêtent pas de raconter des histoires, leur histoire. Et ça fait naître d'autres images dans le film. Alors, par exemple, celui qui dit qu'il a rampé pendant des kilomètres et des kilomètres et qu'il est sorti par une plaque d'égout et qu'il est arrivé devant un casino. Et ça, c'est une image. On la voit, en fait, hein.
Oui, mais en fait, l'idée, c'était ces personnages, c'était qu'ils existent, enfin, en tant que personnages, en tant qu'humains, et donc, qui racontent leur histoire, qui sont toutes symptomatiques et symboliques, en fait, de leur parcours. Et on voit encore une fois que ce sont tous des gens qui ont eu un accident et qui ont vécu les mêmes choses. Et parfois, moi-même, je découvrais ce que je voulais préserver, une forme de, quand même, de nouveauté, de virginité. Parfois, je savais qu'ils avaient des histoires à me raconter, mais je voulais attendre le moment du tournage. Parce qu'ils sont pas des acteurs, donc on peut pas leur demander de répéter une histoire personnelle. Et notamment, je pense au cas de Rampage, donc Massacre en français, qui est un type sans dents, adorable, etc., qui a un cancer du rein, d'ailleurs, qui va pas durer très longtemps, à mon avis. Et en fait, qui, lui, m'a expliqué, à un moment donné, son surnom, parce qu'il avait donné 17 coups de couteau à un sex-offender pédophile dans une prison. Et c'est comme pour ça qu'on m'appelle Rampage. Et nous, quand on filme cette séquence-là, en fait, on découvre en même temps que lui, en même temps que le spectateur, ce qui est en train de se passer. Et tout le problème, en fait, la difficulté du film, c'était de trouver le juste milieu, on pourrait dire, entre, d'un côté, une espèce d'hyper-préparation, je dirais esthétique, les cadres, comment est-ce qu'on va filmer, quelle optique, quel néon, quelle lumière, voilà. voilà, à quel moment c'est le plan Storaro, le plan Gordon Willis, le plan Carpenter, le plan Mann, enfin bref. Donc c'était ultra préparation pour précisément être prêt, on pourrait dire, à accueillir de façon la plus efficace possible l'improvisation. Parce qu'on n'allait pas arrêter le réel en disant, bon, attends, Brandy, arrête de vivre, on a la lumière à faire pendant 3 minutes. Donc il fallait que nous, on ait ultra préparé avant pour pouvoir réagir très vite. Je pense par exemple à cette séquence lorsque Brandy, donc, il se prépare à aller au casino. Moi, j'ai eu souvent des engueulades amicales avec eux. Je ne comprends pas, vous avez gagné 20 dollars, arrêtez avec le casino, jouer c'est perdre. Mais en fait, j'ai compris le paradoxe. D'abord, ils ont besoin de s'acheter cet espoir. Ils y vont même pas pour gagner. Ils y vont pour être pendant 10 minutes comme des gens un peu normaux à une machine à sous. Et avec l'espoir de gagner et y perdre. Et donc cette séquence, Brandy m'avait dit, on va parfois au casino. Alors je lui dis, bah vous voulez pas y aller demain? Elle me dit, pas de problème. Et donc quand ce moment va avoir lieu, je ne sais rien avec l'équipe de ce qui va se passer. Elle m'a juste dit, on irait dans un casino. Or, les caméras professionnelles dans un casino sont interdites. Il faut une autorisation, c'est impossible. Donc nous, en fait, la veille, on était partis avec un iPhone, qui est la seule séquence du film qui n'est pas tournée avec Mini Alexa, customisé. On avait fait des essais en disant, il y a un moment, on va au cours de cette nuit, on va être dans un casino. Là, il faut pas qu'on arrête le flux du réel, il faut qu'on soit très réactif, donc on ait tout le matos, en fait, sur nous, prêt. Et donc, quand elle commence, la séquence commence, elle se maquille, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et donc, je découvre en même temps le fait qu'elle se maquille, qu'elle met sa perruque, qui commence à déambuler dans cette espèce de wash aux abords des tunnels. Ils vont acheter le briquet. Et là, on est vraiment, pour moi, c'était la séquence Cassavetes, quoi. Il y avait le côté, la séquence Vitelloni, la séquence Drifter, vraiment les bras cassés qui vont acheter un briquet, prendre le bus, rentrer dans le casino. Et toute cette séquence-là, on la découvre en même temps qu'on la filme.
Parce qu'en plus, vous vous êtes quand même compliqué la vie en tournant en scope. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, dans les tunnels, l'espace est rétréci, c'est plus facile de faire du 1,37, en plus de mettre un rond dans le carré. Quoi.
Alors, c'est, faire du 1,37, précisément.
Oui, le 1,37, c'est un format d'image.
Presque carré.
Qui est presque carré, qui était le format muet. Après, on l'a fait plus rectangulaire pour mettre la piste son. Mais aujourd'hui, on peut toujours faire du format carré. Par exemple, L'Inconnu de la Grande Arche, le film de Stéphane de Moustier qui sort la semaine prochaine, est tourné en format carré. C'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui faire, qu'on peut choisir. Avec et surtout avec le numérique, c'est encore plus facile. Mais là, le scope, ça veut dire que vous avez une image très large, et donc il faut la composer, cette image. Oui. Pourquoi avoir choisi cette image scope qui, en plus, vous l'avez dit, les objectifs sont plus encombrants, déjà que c'est compliqué d'aller tourner sous terre.
Donc, en fait, la caméra plus objectif, on est entre 13 et 16 kilos. Hein, c'est à peu près ça. Alors, comme on est un mauvais genre, on peut parler sérieusement. Voilà, on peut faire... Et donc, à votre question, cher Philippe, du scope, elle est fondamentale, parce que c'était le scope et les optiques, on pourrait dire anamorphiques, étaient les deux points de départ, en tout cas pour moi, non négociables en termes de budget et de production. C'est qu'on peut, on peut se dire, on aura un peu moins de temps de tournage, on peut jouer, mais pas ça. Si j'avais utilisé du 1,33, parce que les tunnels, c'est un format plutôt carré. Donc on a tendance naturellement à se dire, bon bah je vais prendre un format qui épouse la forme des tunnels. Or si on se met à cadrer des personnages qui sont dans un tunnel, en 1,33, ils sont au centre du cadre. Et donc, d'une certaine manière, on donne le sentiment qu'ils ont pleine possession du cadre, qu'ils maîtrisent en réalité l'espace. Or, la vérité, en fait, de leur condition de vie, elle va contre, d'une certaine manière, la vérité spatiale. C'est-à-dire, je me suis dit, avec le scope, on va perdre les personnages. Ils sont toujours décadrés. Il y aura toujours plus de noir que de zones éclairées. Et, d'une certaine manière, c'était une façon aussi, en fait, de rendre compte de la fragilité ou de l'instabilité de leur position à l'intérieur même des tunnels, même si c'est chez eux. Et donc, en utilisant un artifice qui est le scope, qui est évidemment, c'est un format affirmé, on se dit tiens, c'est en scope. En fait, c'était une manière de retrouver la vérité de leur position et de leur situation dans les tunnels que m'aurait pas permis le 1,33 qui, de façon intuitive, était le format des tunnels. Et l'autre chose par rapport au scope, c'est que on connaît tous ici l'histoire du cinéma documentaire, le rapport, la fiction, la réalité, etc. Et moi, j'avais surtout pas envie de me dire, voilà, je vais filmer des gens qui sont dans un état de pauvreté et de misère terrible, donc image dégueulasse. Gens pauvres, voilà. Image pauvre. Ça, moi, alors chacun a son point de vue là-dessus. Je dirais pas moralement, j'aime pas ce mot, mais éthiquement, ça, c'est quelque chose de pas possible. Je me suis dit, pourquoi est-ce que non seulement je n'aurais pas le droit de filmer Brandy comme on filme Nicole Kidman, au nom de quoi, parce que ce personnage-là est dans cet état-là, elle n'aurait pas le droit d'avoir un écrin équivalent à des stars de cinéma. Et c'était aussi, d'une certaine façon, pour moi, le plus important de leur donner une dimension, vous parliez d'universalité, en tout cas une dimension mythologique et une forme de dignité. Alors que si j'avais pris une image dégueulasse sur, enfin je dis dégueulasse, c'est-à-dire pauvre esthétiquement, sur cette réalité pauvre, là je pense que j'aurais fauté presque d'un point de vue éthique. Donc l'esthétique, d'une certaine manière, alors qu'on sait combien en France c'est compliqué cette question d'esthétique, on a l'impression qu'il ne faut pas esthétiser, mais moi je pense tout le contraire. Il faut esthétiser en fait les gens qu'on a envie de filmer. Je pense que d'un point de vue éthique précisément, parce qu'on les élève, on leur donne quelque chose, alors que l'image pauvre n'est que redondante par rapport à une situation sociale particulière.
Comme dit Debord, rien n'est trop beau pour le prolétariat.
Exactement. Mais je dis ça parce que c'est pas un débat qu'on a beaucoup en États-Unis ou en Italie. C'est vraiment quelque chose de très français. C'est-à-dire que il y a comme si, d'une certaine manière, la condition sociale des individus qu'on filme déterminait le niveau esthétique du film. Moi, pour moi, absolument pas. Il y a une éthique de l'esthétique et je dirais même que c'est au nom de ce travail formel qui a l'air un peu pointilleux, un peu maniaque, un peu fou, mais qui pour moi était extrêmement important.
C'est pour ça que tu rajoutes aussi des éclairages. Rouge, bleu. Par exemple, bleu.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que le film se termine presque avec des images que m'a envoyé Brandy, en fait, parce que on sait que ce qui pèse, la peur qui pèse sur ces jours des tunnels, c'est la peur des inondations. Quand on est à plus de 10 minutes de l'entrée d'un tunnel, on sait qu'on y passe en cas d'inondation. Parce que c'est pas une petite inondation tranquille, hein, ce sont des flux tendus, hein, plusieurs millions de litres dans les tunnels. Et donc, pendant le temps du tournage, il n'y a pas eu d'inondation. Et Brandy, qui avait parfaitement compris, qui est le personnage principal du film, en fait, l'idée du film, quelques jours après notre départ de Las Vegas, inondation dans la ville. Et là, elle a le réflexe absolument formidable de sortir son vieil iPad et de prendre comme ça des images. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant de terminer le film avec ça, quasiment, parce que ça d'une certaine manière, ça théorise complètement le contraste entre ce qu'aurait pu être le film s'il avait été filmé par exemple un iPad et ce qu'on peut nous en faire. Et la question des néons, c'est la même chose, c'est que ce qu'on cherche, d'une certaine manière, c'est la justesse et la vérité, et pour ça faut passer par du faux. Et donc les tunnels, objectivement, c'est noir et par moments des éclats de lumière blanche. Si on filme tel quel ce que c'est ça. Et nous, on s'est dit au contraire, il faut à l'inverse créer des codes couleurs à la fois pour, je dirais, distinguer les tunnels les uns des autres, les bleus, un certain type de bleu électrique, les rouges, les jaunes, etc. Et aussi pour renvoyer aux émotions. Alors là, par exemple, la référence à Michael Mann, pour moi la plus évidente, c'est à un moment où on a eu un rêve de Brandy qui espère s'échapper, et puis on se rend compte finalement qu'elle n'a pas bougé du tunnel, et le plan se termine après le lever de soleil sur sa valise qui est restée à quai, on pourrait dire, dans les tunnels, et tout le plan est intégralement bleu. Et là, moi, je voulais le bleu manien exactement, qui est le bleu du foyer et du home sweet home dans les films de Michael Mann. Donc la couleur me permettait aussi, de certaine manière, d'éclairer, sans jeu de mots, les émotions, ou en tout cas l'intérieur ou l'intériorité des personnages.
Et puis, il y a aussi une idée, avec cette inondation, c'est que tous ces gens, on les a vus comment, avec soin, ils créent un chez-eux, etc., l'inondation balaye tout. Ah oui. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont mis avec soin, etc., tout est emporté, tout est déchiqueté, et on voit à quel point même ces rêves-là sont emportés.
Jolie commode là, qu'elle a mis dans dans sa caverne.
Rollo. Rollo. Hey. Come here. Good boy. Good boy. Come on, let's see. We panhandle up on the overpass over here, and there's a couple other people up there, and they kept telling us, come stay down in the tunnel with us. It's, you know, it's safe. There's no cops down here. At the time, it wasn't closed off like it is now, on the side here or over there. And so it's easy access any direction, and it's, you know, it's the ideal place to be, out of sight, out of mind. And it took them a couple weeks to try and convince us, and finally we came down to visit them and see what the tunnel was like. And it's kind of weird to me because it was kind of, you know, dirty, and there's bugs, and there's It just kind of creeped me out a little bit.
Voilà, but, Brandy et son chien Rollo.
Qui est un pitbull.
Pitbull, sympathique.
Très sympathique, d'ailleurs. Je peux livrer aux auditeurs de Mauvais Gens un moyen, en fait, parce que...
écoutez bien.
Non, mais je dis ça parce que c'est vrai qu'un pitbull, a priori, ce qui est stupide, mais c'est pas très friendly, et puis ils sont quand même là pour garder, etc. Et on sait que le problème d'un pitbull, c'est que lorsqu'il vous mord, il ne lâche pas, en fait, l'emprise, puisqu'il arrive à respirer tout en vous mordant. Donc, comment est-ce qu'on fait si on est mordu par un pitbull? Moi, c'est une question. Et les gens des tunnels m'ont appris. En fait, il faut leur mettre le doigt dans l'anus. La seule façon, si vous êtes un pitbull, vous mord, c'est pas la peine de secouer son bras, c'est pas la peine de prendre sa gueule, il va rien se passer. La seule, je dis ça parce que c'est quand même, on sait jamais, ça peut être utile. Le seul moyen de desserrer la mâchoire d'un pitbull, ce qui n'est pas le cas des autres chiens, c'est de leur mettre un doigt dans l'anus et là, automatiquement, ils ouvrent la gueule. Enfin, c'était le moment conseil, le moment recommandation.
Mauvais genre, le tuto
c'est
mauvais
le moment
genre.
30 millions d'amis de mauvais genre. J'aimerais qu'on vienne sur la question, justement, de l'éthique, hein, cette célèbre éthique du travelling, Jacques Rivette, l'article donc des cahiers du cinéma,
Capot,
filmer les camps de concentration. Là se pose un problème un peu équivalent, puisque c'était déjà présent, à mon avis, dans vos précédents films, c'est-à-dire que les personnages, justement, qu'on va trouver dans des coins, des recoins de l'Amérique, comment les filmer, comment leur parler sans... en sortant du côté, alors soit à l'espèce de distance anthropologique comme ça, soit en étant une espèce de réalisme un peu voyeur et tout. Là, la question, c'est un film en même temps sur, on filme justement le peuple de l'abîme et on réfléchit à la manière dont on doit le filmer. Je veux dire, oui, en permanence, ce film fonctionne sur deux rails, à la fois qu'est-ce que je suis en train de faire et bon, est-ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
Oui, bien sûr. Mais alors, je pourrais répondre deux choses. La première, qui est une évidence, c'est-à-dire que quand on part, en fait, faire un film ou avec cette idée de faire un film dans les tunnels de Las Vegas, moi j'ai un niveau de connaissance qui est le vôtre. C'est-à-dire que je n'y suis jamais allé, je ne sais pas, etc. Par contre, j'ai beaucoup d'images dans la tête. C'est-à-dire que, c'est pas un lieu où je vais le développer, c'est bien ici. C'est que la pop culture, le cinéma, la littérature, la BD a rempli notre image de tête, de notre cerveau, d'images sur le monde d'en dessous. Hein. C'est même vous, François, qui m'aviez recommandé de lire Les Indes Noires de Jules Verne.
Ah ben voilà, hein. Grand roman sur les
absolument,
questions.
Absolument, avant que je parte en tournage. Donc on a tous des idées en tête de ce que sont les gens qui vivent sous terre, théorie de la terre creuse, etc. Les films de Romero, New York 97. On se dit, il n'y a que des monstres, il y a des frics, des albinos.
Des mutants,
criminels. Et donc, moi, j'ai voulu vraiment ouvrir le film, en fait, du point de vue, en fait, de mon propre lieu commun. À savoir qu'on va pénétrer avec eux dans une sorte de séquence un peu inquiétante avec un homme dont on ne voit pas le visage, donc pas l'humanité. Et l'idée, c'était vraiment de rentrer et d'aller chercher l'humanité à partir du cliché qu'on a et que le film se retourne.
Voilà.
Et qu'à la fin, comme dans les films de Romero, les zombies, c'est nous, la monstruosité, elle a changé de camp. Autrement dit, elle est remontée. La monstruosité, elle est maintenant à la surface, après avoir passé 2 heures avec ces gens dont on avait plutôt peur, sur lesquels on avait beaucoup d'idées reçues en réalité. Donc ça, esthétiquement, ça a été le guide. Hein, comment est-ce qu'on inverse, en fait, on pourrait presque dire le propos de départ ou le cliché, on le retourne, et que la surface, qui est celle qu'on côtoie naturellement, devient monstrueuse, en fait, à l'issue du film. Et la dimension esthétique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire, en fait, de gens qui existent vraiment, des personnages emblématiques qui peuvent parler à tout le monde, qui sont symptomatiques d'eux. Et donc, la question mythologique, elle est importante. Il y a plein de Brandy dans le monde. Il y a plein de ces différents personnages. D'où le fait que le film se termine aussi par une série de portraits plein pot en noir et blanc, qui était pour moi une référence évidemment aux photos de Dorothy Lange sur la dépression, en me disant, voilà, en fait, on est en 2023, 2024, voilà, 2025, mais en fait, c'est toujours en gros la même histoire qui revient, et évidemment, dans la dépression des années 30, on aurait pu faire un film, pas forcément sous terre, mais en fait, il y aurait eu ce même film. Le coup éternel, en fait, de notre façon de vivre.
C'est vrai, j'ai pas pensé, mais là, j'y pense, c'est vrai qu'on pense aussi à ce grand livre de Walker Evans, Louons maintenant les grands hommes, sur l'Amérique de la dépression, enfin l'Amérique des raisins de la colère. Et on retrouve d'ailleurs une sorte d'écho comme ça entre les raisins de la colère et Neon People.
Oui, de toute façon, c'est une histoire qui n'arrêtera jamais, si ce n'est que les modalités changent, la violence change, parce qu'il y a quand même une violence, là, on n'est plus sur les routes, etc., dans un champ de blé, avec des gens qui peuvent vous aider. Là, il y a une coupure absolument radicale. Oui. Je veux dire, on est sous terre, dans des conditions évidemment sanitaires absolument redoutables. Et surtout, il y a une indifférence absolue entre le haut et le bas. C'est-à-dire que les gens du bas nous disent, en fait, on est invisibles. Et ils sont vraiment... Ils sont regardés, mais pas vus. Hein. Moi, quand on va suivre JJ qui va faire la manche sur le strip, mais personne ne regarde JJ. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a une forme de, on pourrait dire, d'interlocution nulle, impossible entre le haut et le bas. Mais le haut, c'est quand même notre société à nous, d'une certaine manière.
Oui, c'est pour ça il se raconte beaucoup d'histoires de fantômes aussi. Hein. Il y a cette histoire qui est absolument magnifique. C'est Brandy qui la raconte, je pense, hein, une histoire de serial killer très obscur qui aurait un couple qui aurait emmené des jeunes femmes. Ils en auraient tué 30. On en aurait identifié 8. Et puis, elle commence à dire, oui, mais... J'entendais des pas qui se rapprochaient de là où on habitait. Et puis, un jour, je suis allé voir ce que c'était et j'ai vu une femme un peu vaporeuse qui avait les bras tendus et derrière elle, une masse noire qu'elle retenait. Et elle dit, oui, c'est une gardienne qui empêche une force de venir nous détruire, etc. J'étais absolument sidéré par le talent de fantastiqueurs aussi, oui. Hein, de ces gens-là qui vivent dans le noir, mais qui ont peur de plein de choses aussi.
Oui, mais bien sûr, et d'ailleurs, alors je n'avais pas dit à Brandy que j'aimais bien John Carpenter, donc là, elle me refait pas Prince of Darkness, parce qu'on est vraiment, c'est vraiment ça, l'idée qu'il y a une sentinelle qui veille pour que le mal ne submerge pas le monde. L'autre chose, c'est que quand on est dans les tunnels, c'est quand même tellement une autre planète que quand vous avez du noir en face de vous, ce qui est le cas d'un tunnel, et que vous entendez des sons bizarres, le cerveau, il produit une image. Il a besoin d'une image, d'une certaine manière, pour compenser les sons qu'il ne comprend pas. Donc, quand on est dans les tunnels, ça peut sembler bizarre ici, je dirais, tranquillement à Paris, mais quand on fait 2-3 kilomètres sous terre, dans le noir, avec des sons bizarres, et on sait ce qui peut s'y passer, je vous assure qu'on peut commencer à voir des choses. Donc, là, je dirais que la part irrationnelle, c'est très tournerien, hein, c'est Curse of the Demon. Hein. Donc, on est moins rassuré, moins vindicatif que quand on est à la surface. Et ce qui est drôle, c'est que les gens des tunnels eux-mêmes, comme c'est un monde à part, ont leur propre mythologie. Et leur mythologie, c'est ce que raconte à mon héros Rampage, c'est qu'ils pensent qu'il y a un deuxième niveau sous Las Vegas, en fait niveau moins 1 ou moins 2 si on veut, qu'il y a une autre ville souterraine et c'est là qu'habitent les vrais Mole People. Parce que les Mole People, c'est comme ça qu'on les appelle, le peuple taupe. Voilà. Et certains sont convaincus de ça. De gens qui seraient nés dans les tunnels, qui n'en seraient jamais sortis, qui n'arriveraient, c'est comme The Descent.
C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est ça. Les mutants absolus.
Voilà. Et on voit que ça travaille en eux. Alors, moi, je n'y crois pas. C'est une mythologie. Mais en tout cas, elle est structurante, cette histoire de mythologie, qui aurait des vrais Mole People, en fait, dans les tunnels. Et par rapport à ce que tu disais, Stéphane, sur le talent. Alors ça, je dirais, c'est des Américains. C'est-à-dire une capacité à raconter des histoires qui traverse toutes les couches sociales de la société qui est quasi innée. Donc quand Brandy me raconte cette histoire, elle est captivante, mais elle l'est pour comme tous les Américains dès qu'ils racontent leur histoire et se mettent en scène.
C'est Rampage qui dit qu'il a vu deux garçons très bizarres, il n'avait pas déterminé quoi.
Avec une aura bizarre et soi-disant il vivrait dans les tunnels niveau moins 1, quelque part loin dans le Nevada.
Voilà, ouais. Donc d'autres... des gens encore plus bizarres, mais
bizarres, absolument. Mais moi, je crois, j'avais envie. Pour moi, c'est il y a deux hors-champs dans le film, en fait. Il y a le hors-champ de la surface qu'on va de temps en temps voir. Je dirais, c'est le hors-champ presque d'une certaine manière esthétique en termes de composition du cadre, le hors-champ politique, bien entendu. Et puis il y a le hors-champ mythologique qui est celui-là. Et quand à un moment, JJ se balade, il nous montre un tunnel et nous dit, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Je n'y vais pas, il y a peut-être des gens très dangereux. Ça me plaisait bien que cette espèce de trou de l'enfer reste en fait inconnu, que le hors-champ travaille même sur le champ, puisqu'on n'y pénétrera jamais.
So I've been down this tunnel a few times. I never find an out to this tunnel. If I've been back a half mile to a mile, there's no way out. Like, you got all these tunnels in these Vegas where you get lost very easy. You get stuck somewhere very easy. These tunnels have took many lives. You know, you got ways out, manholes you can't get out. And I mean, they could cut the floodwaters on any time you're in here. You don't know what's going on the outside once you've been in here for a few hours. So it's very dangerous here. You never know. You never know where people are at in here. Just because we don't see them don't mean they're not in here. They could be in here right now looking at us. We don't know. A lot of people...
Extrait de Neon People de Jean-Baptiste Torré. Est-ce qu'il y a des Neon People à Baltimore, Philadelphie, à New York?
Non. En fait, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il y a des gens à New York, par exemple, qui vivent dans le métro. Il y a à Los Angeles des gens qui vivent dans les fameux collecteurs que tout amateur de cinéma a au moins vu. On n'en fait pas dans tous les Van Dyne L.A., dans Point Blank de Borman. Mais ce sont des canaux ouverts. Hein. En fait, c'est quelque chose de très spécifique à Las Vegas, cette espèce de gigantesque réseau de tunnels qui a été encore une fois construit à la fin des années 70. Parce qu'il faut bien comprendre que Las Vegas, en fait, je parle de là du Las Vegas célèbre où les gens vont, parce que les touristes vont sur 2% du territoire de Las Vegas. Il y a le Strip moderne, voilà, tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, qui va du sud au nord de la ville, qui coupe comme ça en deux, et au nord c'est la Stratosphère, qui est cette espèce de structure dans laquelle habitait Jack Nicholson dans Mars Attacks. Il habite dans la Stratosphère de Las Vegas, et au nord de la Stratosphère c'est vraiment les homeless camps, c'est-à-dire c'est il y a une proportion de homeless absolument phénoménale. Et puis, encore plus au nord, il y a le Las Vegas historique, celui des années 30, 40, 50, qui est celui du Rat Pack, de Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Peter Sinatra, Lofford. Peter Lawford, etc. Et donc, en fait, effectivement, il y a beaucoup de villes, de rues ou d'avenues à Las Vegas ont le nom de ces figures comme ça historiques, mais l'essentiel, pas intégralement, mais l'essentiel de l'activité du divertissement, c'est déplacer sur le strip moderne. Et le vieux quartier est encore là, ça s'appelle Fremont. Il y a encore des touristes qui viennent, mais c'est un peu délabré. Il y a encore même des casinos de l'époque qui sont encore là, dont le plus vieux casino de Las Vegas s'appelle le El Cortes, hein, qui lui date des années 30, qui est toujours debout. Et il y a à côté de ça, là c'est le moment tourisme, mais il y a le Neon Museum. Et le Neon Museum, c'est là où ont été en fait récupérées toutes les anciennes historiques délabrées des vieux casinos. Donc il y a comme il y a des cimetières de voitures ou d'éléphants, il y a le cimetière des enseignes de Las Vegas au nord de Las Vegas.
Philippe Rouillet, pour terminer.
Alors, est-ce que vous avez pu leur montrer le film?
Oui, bien sûr. Ben, je vous dirais que c'était même moi ma crainte, ma préoccupation. L'inquiétude que j'avais, c'est qu'on va les voir, on passe des semaines et des semaines avec eux, puis ensuite on se retrouve dans une salle de montage, puis pendant 7 mois on ne voit plus que des plans et des personnages. Et donc je suis allé leur remontrer assez tôt, en fait, après la fin du film, juste après le, je crois que c'était après que le film ait été présenté au Festival de La Rochelle. Et au début j'avais le fantasme de dresser une toile et de leur montrer, mais on peut rien brancher dans des tunnels, c'est très compliqué.
Mais c'est ça comment on fait.
Donc en fait ils l'ont vu sur plusieurs iPads, comme ça.
Oui, c'est ça, vous leur voyez à plusieurs.
Exactement.
Et en même temps, voilà. On regarde sur leur écran.
Voilà. Et moi, j'ai passé 3-4 jours avec eux, ils l'ont vu en boucle, hein. Ils l'ont vu en boucle, et maintenant, ça a été pour eux, ce tournage, une forme d'expérience un peu étrange. Et depuis, je suis allé les revoir 3-4 fois, je prends de leurs nouvelles. Là, je les tiens au courant de la sortie du film. Par moment, ils ont accès, en fait, à Internet, donc ils suivent, ils voient ce qui se passe par moment. Et puis, pour Brandy, par exemple, ou Do, c'est très surprenant d'être dans les tunnels et puis d'être maintenant sur une affiche de film et d'avoir son image qui circule absolument partout. Mais je vais les voir régulièrement, mais rien ne change en réalité. À part Captain, celui qu'on voit déambuler au début, qui s'est fait prendre pour trafic de drogue, qui maintenant est en prison pour 25 ans. Donc en fait, il ne ressortira jamais. Raven qui est décédé. Et voilà, et à chaque fois que j'y vais, quand 2 mois passent, sur leur visage, c'est 1 an ou 2. Parce que la vie dans les tunnels, elle est évidemment extrêmement rude. Donc il y a presque un phénomène de vieillissement accéléré.
Alors, question sortie américaine de votre film. Est-ce que ça peut générer, en Amérique, film pareil?
Vous savez, aux États-Unis, il y a quasiment plus de cinéma. Et puis quand c'est des cinémas, c'est des multiplex. Et c'est, en gros, c'est que des Marvel. Donc là, on a été acheté par des Américains. Donc je pense qu'il y aura peut-être... moi, je l'ai présenté à Chicago en festival. Mais voilà, il y aura sans doute quelques projections très ponctuelles dans des villes ou autres. Mais à la fin, la destinée de tout ça, fondamentalement, c'est la plateforme. Hein, c'est ça qui va arriver.
Philippe Rouillet.
C'est bien. Oui, donc là, vous avez aussi fait la musique du film, parce que précédent, il y avait des thèmes, mais là, c'est vous avez fait toute la musique du film.
Oui, toute la musique. Bon, après, c'est mon autre plaisir coupable, mais en fait, ça a été très utile pour moi, en réalité, parce qu'il y a un titre qui arrive au moment du générique, c'est le seul. Et en fait, ça permet tout simplement de travailler en permanence au plus près des séquences, du montage, et surtout par rapport à l'ambiance. C'est-à-dire que cette espèce de... Moi, je suis fasciné par les villes américaines, et en même temps, elle m'effraie, hein. On est à peu près tous comme ça. Et la musique me permettait, en plus de on pourrait presque dire, de faire surgir des motifs positifs comme la mélancolie de ces villes américaines, voire la spiritualité. Moi, j'avais le mot néon au moment de la composition pendant toutes les semaines de composition, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les différents thèmes. Donc, c'est vraiment là, on pourrait dire la puissance, la beauté, la tristesse des néons. Donc, c'est une musique, on pourrait dire électro-mélancolique, si on veut, ou techno-mélancolique. C'était ça qui moi m'obsédait, et pas du tout pour illustrer, etc., mais plutôt pour à chaque fois aller creuser en fait les personnages ou même la ville américaine. Donc j'ai beaucoup aimé faire ça.
On entend la musique et puis dès le début, on entre en fait, on part de l'intérieur du tunnel pour aller à l'extérieur et pas l'inverse.
Oui. En fait, juste un mot là-dessus, c'est qu'il y a deux plans en fait qui sont l'un et le contre-champ de l'autre. C'est que la première fois, on passe de l'extérieur vers l'intérieur, notre point de vue, et on va à la rencontre de ces gens-là. Oui. Et aux trois quarts du film, c'est le mouvement inverse. On part de l'intérieur du tunnel pour aller vers l'extérieur parce qu'on va épouser le désir de ces gens maintenant d'en sortir puisqu'on a adopté leur point de vue.
Neon People de Jean-Baptiste Torré, visible en salle depuis le 22 octobre. Chronique maintenant dans Mauvais Genre et on commence avec le journal de tournage du Cercle Rouge.
Monsieur Mattei, vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable?
Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents.
Vous voulez ailleurs? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas.
Monsieur l'inspecteur général, mon directeur vient de vous dire que seule la chance peut rattraper vos jeunes, dorénavant. La chance est moi, en vérité.
Monsieur Mattei, je ne mets pas en doute votre bonne volonté. Par contre, permettez-moi de me montrer sceptique quant à l'efficacité dont vous faites preuve dans l'arrestation des coupables.
Mattei a les meilleurs états de service de toute la PJ depuis 15 ans.
Mais la belle affaire, on change en 15 ans. Croyez-vous que je sois resté le même depuis 1955? Nous changeons tous en mal.
Ça, c'est une scène que j'écouterais volontiers en boucle, mais bon.
Eh ben justement,
on va commencer avec vous, Philippe Rouillet.
Justement, Bernard Stora, dans son livre Dans le Cercle Rouge, décortique cette scène. Parce qu'en fait, Bernard Stora, ce qui est passionnant, c'est qu'il était premier assistant réalisateur de Jean-Pierre Melville sur le film. Et il a eu une idée. À l'époque, il pensait pas du tout, il se projetait pas, hein. On est en 1970, hein, enfin 69 le tournage. Il imaginait pas, mais il a gardé les feuilles de service. Les feuilles de service, vous savez, c'est les feuilles qu'on envoie à toute l'équipe chaque jour sur un tournage qui vaut pour convocation, qui sera là, et du coup tout le monde est au courant de dans quel décor on tourne, quelles scènes on tourne, quels accessoires. Et donc, habituellement, c'est vraiment des consommables. Hein. On l'utilise et puis après, c'est comme un mail pour une émission, un événement qui est fini, vous le balancez. Or là, il a tout gardé. Il a tout gardé religieusement. C'était évidemment pas des mails, hein, c'était des feuilles papier. Et aujourd'hui, il peut écrire ce livre qui, pour nous tous, et je suis sûr que tous les auditeurs, aiment autant que François et moi le Cercle Rouge. Ils sont obligés, sinon ils nous écouteraient pas. Ben, ce livre, c'est tout simplement un cadeau. Parce que c'est un livre qui nous permet d'aller dans les archives, dans les coulisses de ce film, mais au jour le jour. C'est-à-dire que chaque chapitre s'ouvre sur les feuilles de service du jour. Et on est avec le premier assistant qui nous les commente. C'est-à-dire qu'à la fois, il nous raconte comment on est passé de la feuille de service au tournage lui-même, et ça s'adresse évidemment à un portrait de Melville, l'homme qui constamment est là, et avec ses caprices, avec ses foucades, avec ses manies, mais aussi la manière dont il met en scène. Et par exemple, ce plan au début du film où on est dans le train, et c'est l'évasion du personnage de Jeanne-Marie Volonté. Et comment on passe de l'intérieur avec le bris de la vitre à ce plan d'extérieur. Et ben, il nous raconte comment Melville a triché pour pouvoir passer d'un plan à un autre et donner une impression de continuité. Comment l'hélicoptère était positionné. Comment ils avaient un créneau très étroit par rapport à l'éclairage, parce que sinon on n'allait rien voir, etc. Et tout ça est raconté. Et du coup, c'est une autre manière de vivre le film, de voir le film, mais surtout presque de le vivre. Et c'est en cela que je parle d'un cadeau.
Mais dans une question, Philippe, moi, le livre, on va tous le lire, mais la question que je me posais, c'est est-ce que ça renforce ou est-ce que ça écorne la mythologie du Melville maîtrisant intégralement le tournage, où on se rend compte finalement que lui aussi se met à improviser des choses que rétrospectivement, il a dit qu'ils étaient coulés dans le marbre.
En fait, non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise tout, et quand il arrive un accident, l'homme se réjouit. Parce qu'il se dit, comme on sait que je maîtrise tout, on va penser que c'est moi qui l'ai mis. Et on va penser que je suis encore plus grand.
Bernard Stora, le journal du tournage du Cercle Rouge chez De Noël, qu'on remercie De Noël et Bernard Stora, bien évidemment. Stéphane Duménildo.
Et c'est aux éditions Scala, nouvelles éditions Scala, par Eric Fauré. C'est Yoshitoshi, le dernier maître de l'ukiyo-e. Donc l'ukiyo-e, c'est l'estampe, en fait, hein, les estampes, les images du monde flottant. Et Yoshitoshi, c'est justement, voilà, c'est un dernier maître, puisque il est né en 1839, il meurt en 1892. C'est-à-dire qu'il va aller de la fin de l'époque Edo à l'ère Meiji. C'est-à-dire qu'il va aller du Japon encore féodal à son ouverture vers l'Occident et à sa modernisation. C'est-à-dire, on va voir à la fois des geishas en kimono et puis on va voir apparaître de la mode occidentale dans ces estampes et puis des locomotives, des choses comme ça, des officiers de l'armée britannique. Mais en fait, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que c'est aussi un maître du fait divers sanglant et des fantômes. Donc, par exemple, il va aller sur les dernières batailles de l'ère Edo, c'est la bataille d'Ueno, mais lui et d'autres peintres d'estampes, ils vont aller voir les cadavres pour savoir comment dessiner des plaies, dessiner des décors. Il se rendait très souvent sur les lieux d'exécution pour regarder des têtes coupées. Il avait une obsession pour les têtes coupées. On en retrouve dans beaucoup de ces estampes. Il faut dire ces estampes de faits divers, qui sont des faits divers qui se passent à l'époque où il est peint, mais qui en fait il est obligé pour des questions de censure de représenter quelques siècles auparavant parce qu'il pouvait pas représenter des événements directs. On voit par exemple des gens en train d'arracher la peau du visage. Voilà, du visage de leurs ennemis, de leur planter des sabres dans le crâne, comme Rampage, donc. Voilà, des choses qui font vraiment encore maintenant dresser les cheveux sur la tête. Et il a une façon de dessiner le sang qui est absolument, absolument incroyable. Je veux dire, bon, tous ces estampes sont dessins d'une finesse dingue, en même temps avec beaucoup de lignes brisées. Donc on n'est pas dans quelque chose d'enveloppant, de quelque chose de... Ah, pas quand il peint des femmes, ça, c'est autre chose. Les belles geishas de Yoshiwara, ça, il n'est pas magnifique. Mais quand il peint des faits divers ou des fantômes.
Des fantômes, voilà.
Des fantômes, alors ça. Alors on ne sait pas si c'était. Si c'est d'avoir été persécuté par des fantômes qui l'ont rendu neurasthénique ou si cette neurasthénie lui faisait apparaître des fantômes. Mais il y en a un que, évidemment, qu'il faudrait que je recommande, c'est le fantôme d'une vieille geisha qui monte un escalier, qui est une merveille de composition. Il y a cette femme qui est complètement amaigrie, qui a l'air de lui lancer une malédiction. Et pour terminer sur une note plus drôle, il croyait qu'il y avait une femme renard qui venait dans son jardin, mais en fait c'était le chat des voisins, tout simplement.
On rappelle l'auteur et l'éditeur.
Eric Fauré, nouvelles éditions Scala, Yoshitoshi, le dernier maître de l'ukiyo-e.
Merci Stéphane, c'est le moment très attendu des cadeaux. Alors, Tim Adler, La mafia Hollywood aux éditions du Nouveau Monde dans la collection Chrono, ça c'est bon, Jean-Baptiste Toré.
Ah, c'est gentil, merci.
Philippe Rouillet de Baptiste André, Rothsteiger, Briller dans l'ombre aux éditions Carlotta.
Ah bah merci beaucoup.
Vive Rothsteiger, et puis évidemment. évidemment l'affaire Oden, une diabolique dans le Japon de Meiji. Chez Flammarion, hein, de Osoi Ayame et Pierre-François Souris, c'est dans la collection Au fil de l'histoire pour Stéphane.
Et oui, là,
du Ménildo.
La dernière femme décapitée.
Et puis, Laura Polleret aura une expérience américaine du chaos, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, donc le classique de Jean-Baptiste
Dans
Torré.
Une version augmentée.
Dans une version
avec
augmentée.
Un chapitre qui reprend toute la filmographie de Toby Hooper. En fait, c'est le premier chapitre qui est une sorte de prologue. Et
qui s'appelle le Carnaval des Marginaux. Voilà. On n'est pas loin. Voilà.
Merci infiniment, Jean-Baptiste.
Ben, merci à vous tous.
Pour Neon People, qui est vraiment un extraordinaire film d'une dimension totalement universelle qu'on peut voir en permanence, je vais dire, tout public. Vraiment un témoignage sur l'époque contemporaine. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Podré, Ludovic Auger, Claire Poissignon, Claire Martin Dugard, Philippe Houillet, Stéphane Duménildo et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons à Nantes avec Jeff Vandermeer au festival Utopial.